Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce.
On retrouve Manuela à Fiji.
Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela, vous le savez, sur l'onglet « Soutenez Storia Voce » sur la page d'accueil de notre site. Alors bienvenue dans ce grand entretien, le premier d'une série de 3 épisodes que j'ai voulu consacrer aux Médicis. Alors nous nous concentrons aujourd'hui sur la figure de Laurent, dit le magnifique, figure centrale, incontournable de ce Quattrocento italien et sur lequel tout ou presque a déjà été dit. Alors aujourd'hui, c'est un regard, une perspective italienne que je vous propose et je suis donc ravie d'accueillir Marcello Simonetta. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien de la Renaissance, vous êtes italien, spécialiste de Machiavel et des Médicis, auquel vous avez consacré une trilogie, parue aussi en français aux éditions Albin Michel. Alors Marcello Simonetta, s'agissant tout d'abord des Médicis, est-ce qu'il faut parler, selon vous, d'une famille, d'un clan, d'une dynastie ?
Certainement d'une famille, surtout, oui, d'une clan... Pas nécessairement mafieux, mais décidément très très solide. Et après, la dynastie arrive plus tard, donc on n'est pas encore là.
Alors, c'est Giovanni de Bicci qui fonde la banque Médicis en 1397, mais c'est Cosme, son fils, qui va véritablement propulser sa famille au sommet du pouvoir florentin. Comment va-t-il s'y prendre ?
Bon, Cosimo, il est un banquier. Comme son père, il utilise l'argent comme un outil de pouvoir. Il s'est fait chasser de la ville de Florence en 1434, mais il est très habile et dans moins d'un an, il revient à Florence et à ce moment-là, tous ses ennemis ont le choix de rester ou de se soumettre à son pouvoir, disons pas officiel, mais sinon de partir.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de pacte que Cosme conclut avec les autres familles, puisque Florence, à l'époque, il y a d'autres familles qui ont du pouvoir, qui noyautent les institutions de l'État. Est-ce que c'est un pacte, c'est d'un pacte dont il s'agit ?
C'est pas un pacte écrit. Donc Florence est quand même une république. Elle va rester république pour une autre centaine d'années, effectivement. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que l'argent des Médicis contrôle les élections, les petits et les grands pouvoirs de l'État, et sans effectivement tenir des charges officielles, ils sont eux qui décident les vraies choses. Et évidemment, ils ont des alliés qui sont liés avec eux, avec des pactes de sang. Ou des pactes d'argent. Et effectivement, ils sont comme, je veux dire, pas un clan dans ces cas-là, mais dans un lobby. Effectivement, ils travaillent exactement comme ça. Donc, influence, persuasion, dissuasion, un peu occulte, mais très efficace.
Alors, Cosme meurt en 1464. Quel héritage laisse-t-il à ce moment-là à son clan, à sa famille ?
Eh bon, c'est l'héritage de la famille plus puissante, riche de Florence et aussi très important. Cosimo, il est arrivé à aider un personnage qui s'appelle Francesco Sforza, qui était un condottiere, qui est devenu, grâce aussi à son aide financière, les ducs de Milan. Et dans la première moitié du siècle, 15e siècle où on est, c'était la lutte continuelle entre Florence et Milan. Qui évidemment créait beaucoup de violences, des dépenses. Et grâce à la paix entre les Sforza et les Médicis, ou Florence et Milan, on peut effectivement avoir les débuts de ce qu'on appelle la Renaissance. Il y a une stabilité, disons, relative, qui est suffisante à lancer toute la grande Renaissance de la culture, de l'art et tout ça. Et c'est grâce à cette alliance. Donc, quand Cosimo meurt, son fils Pierre le Goutteux, il prend, disons, le pouvoir, pas officiel, mais comme son nom dit, il est malade, il est pas bien, et il meurt très tôt, en 1469. Et donc, à ce moment-là, c'est Lorenzo qui prend les pouvoirs, et il a seulement 20 ans et il va se devoir débrouiller dans une situation des privilèges, des pouvoirs, mais aussi très difficile parce que l'Italie est n'est pas évidemment une nation et toute fragmentée comme en mosaïque. Et dans cette situation, il y a des amis, il y a beaucoup des ennemis.
Alors, avant peut-être d'aborder, comment dire, Laurent au pouvoir, en tout cas du moins officieusement, que sait-on de l'enfance de Laurent, de son adolescence? Que sait-on finalement de son éducation humaniste, cette éducation qu'il a tellement façonnée, telle qu'on le connaît encore aujourd'hui?
Alors, je dirais que peut-être la meilleure manière de dire ça un peu de mots, c'est de rappeler qu'il y a un fresque dans la chapelle Médicis, dans les palais Médicis, qui a été exécuté par un peintre qui s'appelle Benozzo Gozzoli. Et c'est une chapelle merveilleuse où toutes les gens vont vers les Jésus qui vient de naître, et c'est les trois mages qui marchent vers les Messias. Mais dans un côté de cette chapelle, il y a des portraits de toute la famille, de Cosimo, de Piero, et aussi des gens qui sont des amis de Médicis. Et dans un coin, il y a trois personnages qu'on peut reconnaître très bien. Il y a le jeune Lorenzo, qui a 10 ans, son frère Julien, qui est un peu plus jeune, et leur maître, qui s'appelle Gentile Becchi, un personnage très intéressant, poète latin, qui est leur tuteur. C'est un homme brillant qui Cosimo a choisi pour être leur éducateur personnel privé. Et c'est aussi celui qui a écrit les épigraphes pour deux des statues qui sont les statues plus symboliques du pouvoir des Médicis. Un, c'est les David de Donatello, qui s'est trouvé à cette époque à l'entrée du palais, sur une colonne. Maintenant, il se trouve dans les Bargello. Et la deuxième statue est la statue de Judith, qui est aussi par Donatello, qui s'est trouvé dans les jardins de l'autre côté du palais. Et donc, les faits que ce monsieur, Gentile de Becchi, dont on parlera encore une fois aujourd'hui, soit le maître de ces deux jeunes hommes, nous dit qu'ils ont appris pas seulement à parler, à écrire en latin, mais aussi à vraiment penser, disons, en latin. Lorenzo va être auteur de plusieurs poèmes et aussi petites œuvres, disons, philosophiques, et certainement l'influence des Gentiles est très forte sur lui. Il y a d'autres personnages dans ces côtés-là, mais c'est pas le moment peut-être de tous les mettre dans l'histoire, mais on peut dire qu'à l'âge des 20 ans, donc disons après ces fresques, Laurent est devenu un homme
accompli,
mais évidemment aussi très très jeune encore et un peu arrogant. Et ça, on va le voir, ça va être un petit problème pour lui.
Pétri de culture, finalement, c'est un produit de son temps. C'est un pur humaniste.
Pur, je dirais pas. il comprend très bien que son rôle, c'est un rôle politique, mais il utilise la culture comme un autre utile pour se rendre, disons, plus, pas nécessairement plus aimé, mais plus connu. Et comprend très bien qu'il s'agit quand même d'une culture d'élite. Mmh. C'est pas vraiment une culture populaire. Mmh. Même s'il écrit des poèmes très drôles, des sortes de satires, et en même temps il écrit des poèmes d'amour, c'est dans la tradition du grand poète Pétrarque. Donc il joue un peu avec tous ces gens littéraires. Il est évidemment très brillant. Il le sait, il ne le cache pas, et en même temps, il doit jouer l'autre jeu, qui est le jeu de la politique.
Alors justement, à la mort de son père, donc Pierre le Goutteux, il n'a seulement que 20 ans, Lorenzo, et il devient le premier citoyen de Florence. Que sait-on de son rapport au pouvoir ? Que sait-on de son rapport à la chose publique ? De quoi est-il le garant en tant que premier citoyen de Florence ?
Eh bien, c'est une la chose publique, la Repubblica, et effectivement, c'est une chose qu'il considère un sort de jouet pour lui. Et donc, il utilise tous les leviers du pouvoir qui sont à sa disposition. Mais évidemment, il y a des familles autour de lui aussi puissante et riche que les Médicis, qui commence un peu à pousser et à s'énerver pour la, disons, la priorité de ce jeune homme qui ne fait pas très grand effort pour cacher son désir de dominer, de maîtriser tous les autres.
Donc déjà à cet âge-là.
Oui, oui, surtout à cet âge-là. Et son frère, Julien, qui est un peu moins, disons, arrogant, et il est plus prudent, et apparemment, il arrive à lui dire que c'est pas une bonne idée d'être tellement, disons, agressif sur des aspects de l'administration, et on va voir qu'il y aura des gens qui effectivement sont d'accord avec Julien.
Alors, Cosme avait noyauté les institutions républicaines, mais les apparences étaient sauves encore. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Laurent ne va pas du tout s'inscrire dans cette voie.
C'est pas tellement comme ça aussi. Il a pas vraiment le temps d'échanger, pas encore. La forme de la République, mais la substance est qu'effectivement, il gère les affaires directement. Il faut aussi dire que du point de vue de la banque Médicis, il n'est pas aussi prudent et attentif aux choses que son grand-père surtout.
Laurent est-il aimé des Florentins ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le peuple ?
Bon, quand il est jeune, il n'a pas vraiment fait grand-chose pour le peuple. Il y a des tournements où il gagne des médailles, comme on dirait aujourd'hui, aussi son frère. Donc, ils font, des performances publiques pour montrer leur bravure et courage, tout ça, mais c'est dans un côté évidemment un peu des cours, pas vraiment des peuples et des républiques effectivement. Dans l'année 1471 par exemple, les jeunes ducs de Milan, les fils de Francesco dont on a parlé avant, qui s'appelle Galeazzo Maria Sforza, visite Florence, et il y a une véritable compétition d'élégance, de richesse, pour montrer effectivement une sorte de supériorité des Florentins ou des Milanais. Et ça, évidemment, il y a aussi des compétitions dans l'art, il y a des portraits, tout ça, mais c'est surtout une compétition vraiment des... on dirait aujourd'hui des modes. Et ça nous donne un peu l'idée de cette sorte de compétition plus vaste qui est en train de se dérouler en Italie.
Alors, il est coutume de voir dans le règne de Laurent une sorte d'âge d'or de Florence. C'est une image de splendeur qui s'impose tout de suite à notre esprit. On sait pourtant que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, car la puissance économique des Médicis, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, cette puissance économique se fragilise justement quand Florent arrive au pouvoir. Est-ce à dire que Laurent, qui est l'homme de tous les talents, est incompétent en matière économique et financière ?
Je dirais pas qu'il est incompétent, mais les gens qui gèrent les banques, il faut se rappeler que les banques Médicis sont pas seulement en Italie, ils sont partout en Europe.
Il y a des succursales.
Oui, à Londres, à Paris, en Allemagne, et donc partout. Et tous ces opérations, effectivement. Sont gérés par des gens choisis par les Médicis qui certaines fois sont bons hein, et autres fois sont un peu moins bons et aussi sont peut-être moins honnêtes, ça dépend. Mais je dirais que la chose plus importante c'est les rapports avec Rome. Les Médicis sont jusqu'à un certain moment les banquiers du pape. Ça signifie que même s'ils prêtent beaucoup d'argent et il ne reçoit pas nécessairement les retours des prêtres, il reçoit d'autres sortes des bénéfices.
De gratifications.
Gratifications qui sont politiques, qui
par
sont
par exemple
bon des évêchés, des donc il y a toute une disons machine qui bouge autour de Rome. Et c'est donc quand il y aura un certain pape qui n'est pas trop ami des Médicis, les choses commencent à devenir un peu compliquées.
Alors dans cette Italie morcelée, fragmentée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faite de communes, de républiques, de principautés, quels sont les alliés de Laurent? Quels sont ses ennemis?
Au début, certainement Milan, qui reste du côté de Florence
avec les Sforza, hein.
Avec les Sforza et les papes qui s'appellent Sixte IV. Au début, il n'est pas, disons, hostile, mais après quelques années, on commence à voir que les papes, il est très ambitieux, surtout il a ses neveux, en fait probablement ses fils, sous le nom des neveux. C'est pas par hasard qu'il a le mot népotisme inventé dans cette époque. Parce qu'il faut comprendre que les papes, ils comprennent qu'après leur mort, il n'y aura pas une dynastie s'ils ne laissent pas des états, des duchés, des territoires sous le contrôle de leurs descendants. Et donc, il y a un de ses neveux qui est très ambitieux, qui s'appelle Pietro Riario, qui au début, il a même presque l'ambition de devenir roi d'Italie. Mais il s'est fait probablement empoisonner à un certain moment, et donc il n'est plus sur la scène. Les frères de ce Pietro, qui s'appelle Girolamo Riario, par contre, il est un homme très ambitieux, très violent et aussi très dissimulateur. C'est quelqu'un qui, Lorenzo, il a un bon nez, il a un grand nez, mais il comprend les gens vite et il se méfie beaucoup de lui. Et il a raison de le faire parce que c'est lui qui commence un peu à organiser, disons, une sorte de révolution qui va se passer à Rome, surtout du côté de la banque papale.
Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un événement charnière de la vie de Laurent de Médicis et donc de Florence. C'est la conjuration des Pazzi. Alors, tout d'abord, peut-être un mot sur ces Pazzi. Qui sont-ils?
Alors, les Pazzi sont une famille des banquiers comme les Médicis. Ils ont aussi beaucoup des succursales partout en Europe. Ils sont des mérités d'être pas nécessairement comme les Médicis, mais de gagner certains privilèges. Et il y a un certain moment où il y a une très grande question d'héritage sur la dot d'une femme qui veut épouser un Pazzi. Et Lorenzo fait changer la loi sur l'héritage et effectivement il nie aux Pazzi la possibilité d'accéder ces dots très très conspicue, très grande, de la part des Pazzis. Ça, c'est une des raisons de leur, disons, rancœur. Hostilité, rancœur. Et donc, vite, on voit que les Pazzis, ils se rapprochent au pape, qui aussi commence à se méfier de Laurent, qui n'aime pas certains, disons, invasions des territoires, pas encore en Toscane, mais en Ombrie, dans des petites villes où il y a des gens qui sont un peu turbulents, et Lorenzo, secrètement, mais on le découvre, il les aide contre les papes. Donc, dans cette situation, disons, déjà un peu compromise, les papes, en 1475, décident soudainement d'enlever les charges des banquiers des papes aux Médicis et ils les donnent aux Pazzi. Ouais. Dans ce moment-là, évidemment, il y a une guerre plutôt ouverte sur les plans financiers et sur les plans politiques et il faut être vraiment faire gaffe à ce point-là.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans cette conjuration qu'on appelle des Pazzi, il y a un autre personnage qui a un rôle encore plus important, c'est le pape lui-même, Sixte IV. Est-ce qu'il veut tuer Laurent ? Quel est son objectif, finalement, avec cette conjuration ?
Alors, ça, c'est vraiment, disons, la question un peu compliquée de l'histoire. Parce que le pape, il est très malin. Et il va pas dire aux gens de tuer personne. Il peut pas. Mais il peut dire autre chose. Il peut dire, par exemple, qu'il faudrait changer les gouvernements de Florence. Et donc, en fait, les nouvelles qu'on a de l'organisation de ces complots nous viennent en large partie d'une confession dans des personnages qui devaient être, disons, les tueurs de Lorenzo lui-même, un monsieur qui s'appelle Montesecco. Et celui-là, il nous donne tous les échanges, les dialogues entre les papes, ses neveux et d'autres gens qui participent à ces complots. Et il y a un moment clé dans ces dialogues où, effectivement, les neveux, il dit « Alors, donc il faut tuer les Médicis, non ?» Et les papes, ils lui répondent « Tu es vraiment une grosse bête, tu peux pas dire ces choses-là. Moi, j'ai pas dit qu'il faut tuer des gens. J'ai simplement dit que Florence est une ville très riche, très belle, où peut-être les gouvernements devraient être un peu différents. Donc, c'est ça un peu les langages qu'il utilise.
Très subtil, en tout cas.
C'est plutôt subtil et naturellement, si vous voulez, on peut en rentrer dans des détails plus particuliers là, parce que mes découvertes m'ont porté à effectivement comprendre que les papes étaient effectivement les moteurs de ces complots, même si on les dit pas vraiment, on dit que c'est toujours les neveux, mais c'est lui le vrai directeur de la régie, et avec lui, il y a d'autres personnages qui sont très dangereux du point de vue militaire.
Alors justement, un autre personnage central que vous mettez en valeur dans votre premier livre sur les Médicis, c'est le duc d'Urbino. Urbino, c'est dans les Marches, c'est ça? Et c'est Federico de Montefeltro. Alors, très brièvement, qui est-il, ce personnage?
Alors, il s'agit d'un personnage qui est aussi un condottiere.
C'est un mercenaire, un condottiere.
Mercenaire, qui c'est un peu self-made man, et c'est un peu créé par lui-même. Il a obtenu du pape même les titres des ducs d'Urbino. Et donc mon livre effectivement s'appelle L'énigme Montefeltro parce que j'ai découvert son rôle direct dans la conspiration. Donc Federico est un homme aussi plutôt bien éduqué, il a cultivé, il a la plus grande et riche bibliothèque des manuscrits enluminés de l'époque. Tous ces manuscrits se trouvent maintenant dans la bibliothèque Vaticane, mais évidemment l'époque était à Urbino, où il y a aussi un palais fabuleux, un des palais, disons, c'est une petite ville idéale, merveilleuse, et donc c'est évidemment un homme d'un certain goût et d'homme de culture, mais aussi c'est un homme très brutal, et son métier c'est la guerre. Aussi, il a travaillé pour Lorenzo à un certain moment, quand il y avait la nécessité de réprimer une révolte d'une petite ville en Toscane qui s'appelle Volterra, où il déclenche ses hommes dans un sac très très violent et horrible. Donc il est capable d'être extrême dans la violence, comme il est très raffiné dans ses goûts culturels. Mmh. Donc, et ça, c'est pas une contradiction, c'est aussi l'époque. Lorenzo, effectivement, il n'épaie pas complètement, disons, les salaires pour cette opération. Il y a d'autres petites raisons pour n'être pas trop amis. Plus il devient, effectivement, hostile dans une manière ouverte. Mmh. Et donc, on va voir qu'il aura un rôle, disons, secret jusqu'à ce moment-là, dans les complots, qu'on appelle des pazzi, mais en fait, moi, je les appelle en italien les pupazzi.
Les marionnettes.
Mm. Parce qu'ils sont là, ils croient de faire les choses eux-mêmes, mais effectivement, c'est plutôt des autres gens qui gèrent la question.
Alors, l'objectif de des conjurés, en tout cas, c'est donc de tuer Laurent et son frère. Et donc, ils ont choisi ce jour de Pâques, c'est le 14 avril 1478. Donc, tout Florence est rassemblé dans le Duomo, dans la cathédrale de la ville, pour la messe. Laurent et son frère Julien sont là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bon, au moment où les prêtres soulèvent les pains, l'hostie, il y a deux... donc les deux frères sont assis dans deux côtés de l'église, mm-hmm. et donc il y a deux groupes d'assassins qui s'approchent aux frères. Et le pauvre Julien, il est blessé une vingtaine de fois, et évidemment il est mort presque immédiatement. Laurent, par contre, parce qu'il a plus d'attention ou de chance, il s'est fait seulement blesser légèrement, et beaucoup de ses amis, il s'est jeté littéralement
entre
lui et les assassins. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans cette situation. Donc évidemment, même s'il n'était pas trop aimé par le peuple, évidemment, il y avait des amis qui l'aimaient au point de se faire tuer pour lui. Et donc il arrive plus ou moins à se cacher dans la sacristie du Duomo, et derrière une porte très très lourde. Une fois que la porte est fermée, les assassins, ils comprennent qu'ils peuvent pas les tuer. Donc la moitié de la mission est effectivement n'est pas accomplie. Il y a une autre partie de la mission qui est l'occupation du palais de Palazzo Vecchio, mm-hmm.
du
gouvernement. Et là aussi, la chose échoue parce qu'ils font des erreurs. Et donc, effectivement, toute cette opération qui est décrite un peu plus en détail dans mon livre, c'est une opération très sanguinaire. Il y a beaucoup de violence. Mais enfin, tout ça ne marche pas.
Échoue.
Et donc, la troisième partie de l'opération qui était préparée et dont personne n'avait aucune information jusqu'ici, c'était que la moitié de l'armée de Montefeltro était préparée juste dehors de la ville, prête à intervenir pour, disons, rétablir l'ordre après la tuerie des Médicis qui n'arrive pas. Et aussi grâce à ces désastres, il comprend qu'ils peuvent pas rentrer parce que ça va être une sorte de guerre civile. Aussi, il y a beaucoup de gens qui réagissent spontanément quand ils voient que ces gens, ils n'ont pas seulement essayé de tuer les Médicis, et ils ont réussi à moitié, mais ils ont attaqué leur gouvernement. Et là, évidemment, il réagit contre cette injustice. Et donc, toute l'opération est finie plus ou moins dans ce moment-là.
Donc les Florentins font corps pour défendre leur gouvernement et donc par ricochet les Médicis. La répression qui suit est terrible. Comment est-ce qu'on réagit à Rome? Comment est-ce que le pape réagit lorsqu'il entend, lorsqu'il comprend que son plan n'a pas fonctionné?
Bon, il est pas très content. Il faut dire que la messe qui est en train d'être célébrée au milieu de ces tueries était célébrée par un de ses neveux qui était un très jeune cardinal qui évidemment reste otage de mes Florentins. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui quelque chose qu'il n'aime pas. La deuxième chose qu'il n'aime pas du tout, c'est que les Florentins, ils ont pendu les fenêtres du Palazzo Vecchio, beaucoup de conjurés qu'ils ont attrapés entre eux. Il y a évidemment des gens de la famille Pazzi, mais il y a aussi un personnage dont on n'a parlé pas, mais qui est d'une famille qui s'appelle Salviati, aussi très riche et puissante. Et ce monsieur-là était archevêque de Pise. Donc, il avait évidemment une charge ecclésiastique très très haut, et les Florentins, dans la furie du moment, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient prendre un prélat d'une certaine importance. Et donc, c'est grâce à ça que le pape peut dire que les Florentins, ils ont fait des choses, disons, hérétiques. Et donc il envoie une sorte, ce qu'on appelle un interdé, c'est une sorte d'excommunication de la ville qui est adressée spécifiquement à Laurent. Donc Laurent devient ce qu'on appelle filius iniquitatis, les fils de la méchanceté. Même si évidemment il était l'objet d'une attaque, mais la réaction elle-même permet au pape de dire qu'il s'est mis du côté de la déraison, et donc voilà que se déclenche une guerre des mots qui va bientôt devenir une guerre véritable.
Alors, la guerre véritable, quelles sont les forces en présence, très brièvement, et surtout, quel est l'équilibre de ces forces?
Mais au début, il y a d'un côté Florence, Milan et, disons, Venise, même si Venise, elle est un peu sceptique, elle participe, mais toujours dans une manière un peu pas trop convaincue. Donc c'est vraiment Milan et Florence. J'ajoute un petit détail, qui est à Milan, quelques années avant, il y a eu une autre complot qui a réussi, qui était l'assassinat du duc Caleazzo, le même qui avait visité Florence, et qui était bon ami de Lorenzo. Et donc, comme le duc est un gamin de 6 ans, celui qui gère les pouvoirs, c'est un personnage qui s'appelle Cicco Simonetta, qui est effectivement un ancêtre de moi-même. et ce personnage dont Machiavel parle bien, donc c'est pas nécessairement une bonne chose, mais il les considère un personnage très et très efficace dans l'administration de l'État. Il prend la régence, disons, et il est très proche avec Lorenzo. Donc il les soutient aussi parce qu'il comprend que si Lorenzo tombe, il va tomber lui-même. Ces personnages aussi, j'ajoute un autre détail peut-être intéressant, est une grande maître des cryptographies. Et c'est grâce à ces techniques que je suis arrivé à décrypter la lettre chiffrée dans laquelle j'ai trouvé toutes ces informations dont je viens de parler, de la participation de Federico da Montefeltro au complot, parce qu'effectivement, on ne les savait pas. Et la raison pour laquelle on ne les savait pas, c'est aussi parce que Lorenzo lui-même, il a caché ce qu'il savait. Il le savait très bien.
Et pourquoi il l'a caché?
Il l'a caché parce qu'il savait qu'il s'agissait d'une mercenaire. Et donc, le duc, qui était effectivement, pouvait être létal. Et s'il avait géré lui-même la conjuration, je vous assure, Lorenzo n'aurait pas survécu. Et donc, il était en fait un peu gêné par l'incompétence, disons, des Pazzi et des autres gens qui avaient géré la chose dedans la ville. Et donc, Lorenzo, il fait un pari. Il comprend que s'il va déclarer ouvertement qu'il sait que Federico il était son ennemi juré, il pourra jamais les récupérer. Par contre, avec le temps, peut-être les choses vont changer parce que les mercenaires, comme vous savez, ils vont où l'argent
les appelle. Alors, donc d'un côté, Florence, Milan, une Venise pas très convaincue, et de l'autre côté.
De l'autre côté, on a évidemment les papes et surtout les rois de Naples. Qui a été, disons, convaincu par les papes et par des autres gens que c'est une bonne idée de se libérer de Laurent. Mmh. Donc la guerre, on va le dire très très rapidement, dure presque 3 ans. Chaque année qui passe, Florence se trouve dans une situation plus en plus dangereuse et fragile. Et on arrive au moment où Laurent doit décider quoi faire, parce qu'il comprend qu'il va perdre la guerre, il va être écrasé. Et c'est là qu'il utilise son contact avec les mêmes Montefeltro qui gérait les opérations, qui l'écrasait directement, et il lui fait savoir que peut-être il voudrait parler directement au roi de Naples. Au lieu, il sait très bien que s'il va à Rome, ils vont les tuer immédiatement. Donc, ce qu'il fait, il prend un bateau et il arrive directement à Naples, en bateau. Et il se présente au pied de roi, qui est en Aragon, et lui dit très simplement qu'il s'il aurait le tuer, il peut le faire évidemment sans problème, sauf que il se trouvera avec un pape qui contrôle plus que moitié de l'Italie. Et certainement, ils sont alliés dans ce moment, mais dans le futur, peut-être non. Mmh. Et aussi, il faut dire que les Florentins vont être très, très gentils avec les Napolitains. Ils vont lui faire des grands cadeaux d'argent. Et donc, il fait une sorte de marchandise très brillante, et au lieu de perdre la guerre, il arrive à conclure une paix plutôt avantageuse, en considérant qu'il avait risqué d'être complètement écrasé.
Donc il s'en sort finalement, Laurent.
Et voilà.
Alors Machiavel dira de lui, s'il était parti grand, donc de Florence, il revint grandissime. Donc il insinue, il nous laisse penser que ce retour de Laurent à Florence était grandiose, triomphal. Est-ce que c'est véritablement le cas?
Oui, on peut le dire ça, parce que dans ces moments, effectivement, il a gagné. Pas seulement la guerre, mais il a repris les contrôles de la ville qui était en train de lui échapper, parce qu'évidemment, avec la guerre, les difficultés des citoyens, vous pouvez imaginer, c'était pas facile. Et donc, quand il y revient, il peut effectivement remanier les institutions. Il modifie les conseils qui s'appelaient les Consiglio Grande, il les transforme dans une organe qui s'appelle les 70, les 70, qui sont des gens évidemment qu'il a choisi lui-même, et donc les rênes du pouvoir sont complètement dans ses mains, à ce point-là, et les alliances en Italie vont un peu remélanger, et les papes, évidemment, il est furieux, parce qu'il se sent trahi par les Napolitains, et donc il décide de faire une autre guerre. Ah, il faut se rappeler aussi, il s'agit d'un personnage vraiment remarquable, parce que son nom est Francesco della Rovere. Il était avant le général de l'ordre des franciscains. Donc, il a un peu oublié son vote de pauvreté, d'humilité et de non-violence, les trois. Et donc c'est lui qui décide de commencer une autre guerre. Cette fois, il s'allie avec les Vénitiens contre la ville de Ferrare. Et cette guerre aussi va finir dans une paix voulue, établie, disons, par Lorenzo et ses amis. Et la légende dit que les papes meurent au moment où il sait qu'il y a de la paix. Donc imaginez-vous quelle sorte de papes on avait dans le 15e siècle.
Très belliqueux.
Très, très.
Comme son neveu Jules II finalement.
Oui, mais il faut dire que son neveu, qui va être les papes guerriers par antonomasie, par excellence, il participe pas à aucune de ces opérations. Mmh. Il reste plutôt neutre, sinon presque ami de Laurent. Et les Médicis et les De La Rovere auront d'autres problèmes dans des autres générations qu'on va voir peut-être.
Alors, quand vous dites que Laurent remanie les institutions, est-ce la fin de la République? Est-ce le début d'une tyrannie? Comment qualifier ce remaniement?
Il y a des Florentins qui disent presque ça, effectivement, qu'il s'agit, mais non, même si avant c'était évidemment une République, disons, sous tutelle, mais non, c'est une véritable tyrannie, et il y a des gens qui le disent ouvertement, mais il y a très peu à faire, parce que Laurent, il a pas seulement les contrôles de la ville, mais dans ce moment-là, il a aussi des bonnes et fortes alliances dehors. Et aussi, Laurent, il comprend une chose très importante pour le futur de la famille, qu'on peut pas se permettre d'avoir Rome comme ennemi. Et donc, son projet devient, et il va réussir, de devenir Rome lui-même, la famille. Et donc, il va envoyer son très jeune fils Giovanni, à Rome. En fait, les papes qui suivent Sixte IV s'appellent Innocent VIII. Et la première chose que Lorenzo fait, il promit au fils de ces papes-là, comme vous voyez, les papes étaient très prolifiques à l'époque, sa propre fille. Et avec une dot énorme pour l'époque, donc c'est un grand cadeau au pape en argent et aussi en sang. Et en faisant ça, il obtient en échange d'avoir une nomination pour son fils à 13 ans. 13 ans. Donc cet adolescent, et il s'appelle une nomination in pectore, donc effectivement, elle n'est pas publique, mais elle est officielle au sein de l'Église. Donc elle va être publiée plus avant, quand le gamin a 17 ans.
Et donc il sera cardinal.
Mais il est déjà cardinal, effectivement, à cet âge-là. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est un investissement très intelligent pour le futur.
Alors, donc là, on est dans les années 1482, éventuellement, après la... Voilà. Laurent est un humaniste, on l'a dit, un homme de culture, un poète, c'est un arbitre des élégances, c'est un patron des arts. Est-ce qu'on peut dire que durant ce Quattrocento, l'homme de pouvoir est nécessairement un homme de goût?
Bon, dans les cas de Laurent, et on peut dire aussi de Federico da Montefeltro et d'autres gens comme lui, oui, on peut le dire. C'est pas donné. Il faut aussi se rappeler que pour ces gens, l'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature sont des outils du pouvoir. Et ils sont considérés des manières de manifester son propre pouvoir et magnificence. Et voilà où l'idée du magnifique peut naître, effectivement, pour l'origine de cette idée.
Alors, Laurent est bien évidemment connu avant tout comme étant un grand mécène. Très brièvement, comment ce mécénat s'exerce-t-il? Par des commandes directes à des artistes ou bien en conseillant à d'autres souverains d'embaucher ces artistes amis?
Alors, à Florence, évidemment, il fait beaucoup de choses. On va pas faire la liste de tous les bâtiments où il est intervenu. Et c'est un environnement, disons, compétitif là aussi, parce que toutes les familles de Florence ont leur chapelle plus ou moins grande dans les grandes églises. L'église où Lorenzo, investisse, c'est en fait l'église de Saint-Laurent, qui est juste à côté du palais de Médicis, vraiment à deux pas. Et c'est là que tous les ancêtres et aussi les futurs descendants ont leur sépulture. Et il y a aussi Laurent, apparemment, il fait un dessin lui-même avec de l'aide peut-être de la façade de cette église qui reste jusqu'à aujourd'hui inachevée. Mais entre les projets, il y avait aussi les projets de Lorenz lui-même. Donc, il est vraiment un homme, on peut dire, un homme de la Renaissance dans le sens plus ample possible. Mais je crois qu'il faut pas se faire, disons, rouler dans la farine de la magnificence. Parce que c'est que des aspects d'un personnage très complet, avec beaucoup de prismatiques, disons. Mais donc c'est intéressant, c'est que vous avez demandé de, parce que il est pas seulement en contrôle des artistes qui travaillent à Florence et dans la Toscane, mais il y a un moment où il a la possibilité d'essayer de calmer un peu le pape, parce que le pape, il faut rappeler qui est, c'est lui qui a bâti la chapelle Sixtine.
Bien sûr, Sixte IV a bâti la chapelle Sixtine.
Sixte IV, les mêmes franciscans qui n'est plus franciscan, qui s'est fait bâtir la plus grande et magnifique chapelle de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et alors, il touche pas les plafonds. Il faut se rappeler que ça vient après. Donc il n'y a pas Michel-Ange, mais par contre sur les murs, il y a deux séries de fresques. D'un côté, l'histoire des anciens testaments, donc des Moïse, effectivement.
Moïse.
Et de l'autre côté, l'histoire de Jésus, qui sont parallèles dans un projet théologique très, très élaboré. Et donc, les peintres, ils sont appelés à faire ça. Il y a d'un côté Perugino, qui, quand on dit le nom, n'est pas toscan, il vient de Pérouse, et donc de l'état de l'église. De l'autre côté, il y a trois peintres florentins, Botticelli, Cosimo Rosselli, et Ghirlandaio. Et ces trois sont envoyés spécifiquement par Laurent, qui connaît très bien les rancœurs du pape envers lui, et il essaie un peu de les calmer. Et là se passe quelque chose de très intéressant que j'ai essayé de décrire dans les derniers chapitres de mon livre L'énigme Montefeltro, parce que là, ma théorie, c'est que les papes veulent humilier les Florentins, et dans les tableaux les plus violents et les plus significatifs du point de vue théologique, c'est la rébellion d'un personnage contre Moïse, mais Moïse et son frère Aaron, ils ont les mêmes profils exacts du pape. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a une mise en scène ou mise en abîme du pape lui-même.
Et dans la figure de Moïse et d'Aaron.
Et d'Aaron, qui sont un profil, on les voit, qui ont les mêmes profils exacts, très particuliers, du nez du pape. De l'autre côté, il y a la punition des rebelles contre les pouvoirs, disons, politiques et religieux, qui est représenté par ces deux frères. Évidemment, c'est l'histoire du peuple juif, mais c'est aussi l'histoire de l'Église, parce que juste à côté, de l'autre côté, il y a la fondation de l'Église par Saint-Pierre. Donc, vous voyez l'importance de ces tableaux. Et là, les papes, ils font mettre dans ces tableaux, par Botticelli, qui était un très bon, très anti-ami de Lorenzo et aussi de Julien, et qui l'a portraité posthume. Donc il y a un très fameux portrait de lui. Donc vous comprenez qu'il y a une pression très forte. Botticelli, il sait absolument très bien que c'est le pape qui a déclenché cet enfer contre l'enfer 1096 et contre Florence. Et donc il lui demande de peindre des bateaux avec des signes florentins qui on voit pas au niveau du pavement de la chapelle, mais on les voit très bien si on est juste là. Donc qu'est-ce qu'il va faire Botticelli? Il va accepter d'humilier les Florentins comme des rebelles punis, ou il va trouver une manière de renverser ces messages dans, disons, un code secret. Et c'est ça mon hypothèse que j'ai développée dans mon livre. Mais je crois, je peux me tromper naturellement dans mon interprétation, c'est une interprétation iconologique, mais une chose sûre, c'est que le pape, il a jamais payé Botticelli pour ses 3 fresques dans la chapelle. Donc là, c'est une indication qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas trop bien dans leur rapport.
Donc pour résumer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le pape emploie Botticelli, qui est envoyé par Laurent, pour humilier Florence sur cette fresque. Et en fait, Botticelli trouve le moyen de faire passer le message inverse et d'humilier le pape.
C'est ça ma théorie que j'ai développée, mais c'est difficile de l'expliquer à la radio.
Il faut lire le livre, bien sûr. Donc en fait, pour résumer, c'est une espèce de vengeance des Médicis par l'art.
Voilà, c'est ça.
Alors, Laurent meurt en 1492. Alors, à son tour, que laisse-t-il en héritage à sa famille et à Florence ?
Alors, son héritage, c'est d'un homme, en fait, il meurt très jeune, à 43 ans, d'un homme brillant qui arrive à se débrouiller dans des situations très compliquées et dangereuses, qui préfère la paix à la guerre, qui préfère l'art à la violence, mais quand même, si la violence est nécessaire, on peut l'utiliser. Et donc effectivement tous les gens qui étaient impliqués dans la conjuration, s'ils ne sont pas morts immédiatement pendant la conjuration, dans une manière ou dans l'autre, trouvent une, disons, mort pas naturelle. Et c'est lui qui, c'est Lorenz évidemment, qui a gagné cette épithète de magnifique. On a déjà parlé de ce concept de magnificence. Moi, je crois qu'il faut aussi se rappeler un détail très simple, que Lorenzo, il n'avait pas aucun titre nobiliaire. Les duchés vont arriver beaucoup plus tard dans la famille, aussi des reines, on va voir. Mais à ce moment-là, il s'agit encore des parvenus, des gens qui sont des banquiers, qui ont fait une certaine carrière politique, mais aucun, blason n'a pas été encore attribué à la famille. Donc, les titres des magnifiques qu'on utilisait, c'est un titre parfaitement neutre. Qui n'implique dans aucune manière qui sont des nobles. Donc c'est pas une manière, vous comprenez, il y a juste un petit peu d'ironie de ma part. C'est un personnage d'une intelligence, d'une habileté extrême, mais il n'est pas parfait. Il a évidemment commis des erreurs, d'hubris, d'arrogance dans sa jeunesse. Il a compris sa leçon. Il s'est rattrapé très brillamment. Il pouvait aussi finir très mal. Et après, il laisse un héritage, pas trop d'argent, parce qu'il a beaucoup dépensé. On va découvrir après sa mort qu'il a aussi dépensé de l'argent public sans le dire. Et aussi, il a volé de l'argent des d'autres branches de la famille qui sont pas très heureuses de ça. Mais surtout, il fait un investissement sur le futur de la famille en laissant les pouvoirs politiques à son aîné, qui s'appelle Piero, qui malheureusement ne veut pas être à l'auteur de son père. Mais son deuxième fils, Jean, aura une carrière incroyable parce qu'il va devenir le premier pape florentin de l'histoire et évidemment le premier pape Médicis aussi. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle il y aura une sorte de mythe de Laurent qui va être créé, pas nécessairement par ses contemporaines, mais certainement par ses descendants.
Merci beaucoup Marcello Simonetta. Je rappelle que vous êtes historien de la Renaissance, spécialiste des Médicis. Alors la trilogie que vous leur avez consacrée est parue en français aux éditions Albin Michel. Je signale juste pour nos auditeurs, le premier tome s'intitule « L'énigme de Montefeltro », le deuxième « Des renards et des lions » et le troisième « Catherine de Médicis ». Et donc pour nous, le deuxième épisode de notre série sera consacré aux relations entre les Médicis et le pouvoir pontifical. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous.